Le droit et nous, dans la grande matinale avec Aloutal sur Africa numéro 1.
Pour obtenir la nationalité française par la naturalisation, c'est la troisième partie de notre sujet, un sujet qui vous passionne notamment. L'étranger doit prouver s'il est bien assimilé. Tout étranger demandant la naturalisation doit passer un entretien d'assimilation. Alors, sa demande peut être rejetée s'il ne réussit pas cet entretien. Le droit et nous vous aide à préparer cet entretien d'assimilation en abordant les questions qui sont fréquemment posées et en vous apportant les éléments de réponse à ces questions. Voilà donc le sujet que nous allons aborder. Bonjour Aloutal.
Bonjour Phil.
Alors, on va véritablement expliquer à nos auditeurs avant de prendre, bien sûr, tous ces appels. Pour réussir son entretien d'assimilation, qu'est-ce qu'il faut retenir des valeurs de la République française et de sa place dans le monde ?
Effectivement, on va continuer notre cours magistral, si je peux dire, ou bien nos travaux dirigés à l'instar et à l'égard de ce qui se fait pour obtenir la nationalité française lors de l'entretien d'assimilation. Auparavant, nous avons traité globalement le contexte global qui justifie l'admission à la citoyenneté française par décision de l'autorité publique, qu'on appelle classiquement la naturalisation.
Ouais.
On avait aussi précisé qu'il y avait plusieurs voies pour obtenir la nationalité française. Et parmi ces voies, il y a ceci qui nous intéresse. Et pour cette voie-ci, il faut effectivement passer un entretien d'assimilation. Dans cet entretien d'assimilation, nous avons abordé la dernière fois les principales questions en général qui reviennent lors de cet entretien. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur du contenu qu'on va donner à nos auditeurs pour les aider à préparer la réponse à ces questions. Il ne s'agit pas schématiquement de caler une réponse à une question, mais d'avoir le résidu global pour comprendre ce qu'il faut effectivement retenir pour bien réussir son entretien devant l'agent qui va vous poser ces questions-là. Pour revenir à la question posée par Phil, ça veut dire, pour réussir son entretien d'assimilation, qu'est-ce qu'il faut retenir
Déjà, je pense qu'il faut être bien habillé ce jour-là.
Oui, je pense qu'il faut bien habiller. Et par contre, je crois qu'on n'est pas obligé d'être en costume cravate. On peut porter son djellaba, on peut porter son grand boubou, on peut porter son basin malien, ou bien son habit traditionnel camerounais ou gabonais. Tout ça, comme je disais lors de l'entretien qu'on a eu il y a deux samedis, avec pas mal d'auditeurs d'Africa numéro 1 d'ailleurs à Paris, sur ces questions de naturalisation. L'assimilation ne veut pas dire l'acculturation. On ne demande pas à la personne de se dépouiller de son background culturel, mais plutôt d'adopter les us et les coutumes de la France. Et effectivement, d'accepter les règles qui régissent la République française, d'accepter les mœurs, mais ne pas forcément se dépouiller. Ça veut dire porter le joli costume, le joli cravate ne fera pas forcément de vous le petit-fils de Vercingétorix ou bien de Charles de Gaulle. Par contre, être correct, bien habillé, effectivement, ça fait partie des critères pour son assimilation sociale. Et donc, ce qu'on va vous demander par rapport à cette question-là, sur les symboles de la République et les valeurs françaises, globalement, il faut avoir des éléments de réponse sur les symboles et les principes de la République française. Avoir des éléments sur les principes aussi républicains que sont, on l'a dit la dernière fois, la liberté, l'égalité, la fraternité et aussi la laïcité. Connaître des éléments sur la place de la France en Europe et dans le monde. On va y revenir élément par élément pour donner cette fois-ci des éléments de réponse parce qu'on les avait abordés en tant que tels.
Exact.
Là, je vais donner du contenu que les auditeurs gagneraient à retenir.
À retenir.
Sur les symboles et les principes de la République française, nécessairement, il faudra retenir que la langue officielle de la République française, c'est le français, ce n'est pas l'allemand.
Exact.
C'est une question terre à terre, mais qui peut venir. L'hymne national français et la Marseillaise. Ça aussi, nécessairement, vous ne pouvez pas pêcher à ce niveau-là. Il fait honneur, cet hymne national, aux combattants de la liberté. Le drapeau national est tricolore et les couleurs sont bleu, blanc,
bleu,
rouge.
Blanc,
on
ne
peut pas l'ignorer, sinon on l'ignore, ça devient assez grave.
J'ai failli dire vert, jaune, bleu, comme au Gabon.
Inconsciemment, j'ai failli dire vert, jaune, rouge avec l'étoile au milieu. Mais donc, voilà, apparemment, c'est très, très pertinent comme remarque parce qu'effectivement, on peut être focalisé à une nationalité. Et finalement, même en étant en France, on nous pose des questions sur la citoyenneté. Ça peut renvoyer à la citoyenneté de base qu'on a, en l'occurrence, la citoyenneté de son pays d'origine. Donc, ça, on ne peut pas pêcher sur ça. La Marianne est aussi la représentation d'une paysanne française portant un bonnet frisien comme le firent les révolutionnaires de 1789. Cette Marianne est aussi une figure emblématique de la République française qu'il ne faut pas ignorer. C'est une icône des valeurs républicaines. Son buste est posé dans toutes les mairies de France et estampillé sur les documents officiels émis par le gouvernement sur les pièces et les monnaies et les timbres, et même les documents de toutes les administrations. Mmh. En général, quand on reçoit une décision de naturalisation, on voit cette Marianne aussi. Quand on reçoit, malheureusement, aussi une décision de refus d'un préfet, on voit en haut cette Marianne. Elle est toujours présente, on ne peut pas l'ignorer. Il y a aussi les principes républicains de la France. La devise de la France repose sur trois principes fondamentaux que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Par rapport à la liberté, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai noté dans des documents que j'ai écrits et un livre qui va sortir, je suis en train de donner des éléments de fond que j'offre donc à nos éditeurs, mais qui font l'objet donc bientôt d'un livre qui va sortir sur la naturalisation. Que les principes de liberté et de fraternité fondent la République française. Le principe de la liberté renvoie au fait que l'être humain est libre par principe d'aller et de venir. On fait référence à l'ancien régime monarchique où les gens n'étaient pas automatiquement libres. Avant même, dans la féodalité, il y avait des sujets de droit et des objets de droit. Des gens qui existaient en tant qu'êtres citoyens, d'autres qui existaient comme des choses. Ça veut dire qu'on pouvait avoir droit de cité sur vous. Je ne parle pas d'esclavage. Mmh. Ça veut dire que des gens, par exemple, qui ne pouvaient pas cultiver une terre sans pourtant payer un droit qu'on appelait un cens. Il y avait carrément un impôt à payer. Même pour voter, il y avait un impôt à payer qu'on appelait un cens. L'impôt censitaire. Donc, il faudra retenir que l'instruction est érigée aussi comme condition de la liberté humaine. Ça fait partie de la liberté. Le fait d'aller à l'école. À cet effet, il faut retenir, comme vous le savez certainement, que l'école primaire est publique, est gratuite et même obligatoire. C'est des éléments sur lesquels l'entretien va revenir. Et cette école, qui renvoie à Jean Jaurès toujours, doit être gratuite et laïque. Ça fait partie des fondements de la France. Et comme corollaire de la liberté, tout citoyen bénéficie d'une présomption d'innocence, du droit à un procès juste et équitable, et du droit à la propriété individuelle. Ça, c'est important parce que ce n'est pas toujours acquis. Maintenant, on peut aller au procès assez facilement, sachant que le juge va juger en fonction de son intime conviction, en fonction d'un droit qui est normalement égalitaire et équitable pour tout le monde. Avant, ce n'était pas le cas. En droit pénal, on présumait que vous étiez coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est à vous de prouver que vous n'êtes pas coupable.
Vous n'êtes pas coupable.
Ça nous rappelle le fameux procès de Dreyfus. On vous dit que non, monsieur, vous êtes coupable. C'est à vous de démontrer que vous n'êtes pas coupable. Aujourd'hui, quand on parle ici en France, on pense que ce n'est pas vrai, alors que ça remonte d'une histoire assez récente. Maintenant, le procès, il est contradictoire. Ça veut dire que chaque partie est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Avant, on présumait que vous étiez coupable jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, ce qui le sous-tend, c'est le principe de la liberté. Ouais. La liberté dans tous les éléments de la vie, à travers l'éducation, à travers ses relations dans le privé. L'autonomie de la volonté en matière contractuelle fait que je suis libre, donc je peux consentir ou ne pas consentir.
Exact.
Ça veut dire que vous me proposez un contrat, si ce contrat ne me va pas, je ne suis pas tenu de signer ce contrat-là. Parce qu'effectivement, ça repose sur un principe fondamental de liberté qui renvoie en matière civile à ce que l'on appelle l'autonomie de la volonté. Et à ce niveau, chaque personne est libre de consentir ou de ne pas consentir comme le prétend et le stipule le Code civil français depuis Napoléon, depuis 1804. L'égalité. Les citoyens français sont égaux en droit et en devoir, sans distinction tenant en principe à leur sexe, sachant qu'il y a parfois jusqu'à présent des difficultés en matière salariale. On peut voir deux salariés qui occupent le même poste.
Le même poste et qui ne gagnent pas la même chose.
Parce que, tout simplement, il y a une différence de genre. L'autre est homme, l'autre est femme. Du seul fait, les femmes sont discriminées en matière de traitement salarial ici en France. Alors que ce principe est fondamental. Il ne peut pas y avoir de discrimination en fonction du genre. Il ne peut pas y avoir de discrimination en principe, j'insiste beaucoup sur en principe, en fonction de l'origine. Parce qu'effectivement, dans certaines banlieues, les gens se plaignent d'être discriminés en fonction de leur origine, alors même que ces gens sont nés français en tant que tels. Certainement avec une extranéité au regard de leur origine ou bien de leur couleur de peau ou bien de leur distinction visible. Il ne peut pas y avoir de discrimination tenant aussi à la religion. Ça veut dire que on parle de ce principe de laïcité qui, à la base, était posé pas par rapport à l'État et d'autres religions, mais que par rapport à l'État et à la religion catholique, qui était la religion ici de référence parce qu'il n'y avait pas d'autres religions représentées, sinon que de manière très marginale. Maintenant, d'autres religions sont venues. Effectivement, cette question se pose de l'égalité devant la religion. Les gens se posent des questions. Est-ce que moi, j'ai le droit, comme les autres, de faire des processions dans la rue? On m'interdit de faire des prières de rue? Toutes ces questions-là doivent être traitées dans le sens de l'État. Et dans le sens de l'État, il doit y avoir une neutralité religieuse dans l'espace public. Ouais. Ce qui explique qu'il y ait une loi sur l'interdiction des ports de signes religieux ostentatoires dans l'espace public. Ouais. Dont notamment le voile, par exemple, a fortiori, le voile intégral, a fortiori la burqa, a fortiori de la fortiori le burkini.
Donc, le burkini, ouais.
Donc tout ça, tout ce débat-là, il repose sur ça. quand on entend ces débats dans les médias, le principe fondamental, c'est effectivement ce principe de l'égalité de traitement. Aussi, les discriminations ou les actes racistes sont condamnés en France. Les différences de statut et de droits entre l'homme et la femme qui existent dans d'autres cultures sont interdites en France. Parce que dans d'autres pays, il peut y avoir des différences de traitement en fonction de votre culture. Vous pouvez être un citoyen de droit coutumé, un autre citoyen de droit civil. En France, ils ont passé ce cap-là et maintenant, c'est le principe de l'égalité qui justifie et qui le prohibe. Un autre principe, c'est le principe de la fraternité. Comme on l'a traité, ce principe renvoie à la solidarité entre les citoyens français. Elle est traduite, ce principe, par le fait que ceux qui ont plus de moyens doivent participer plus à la prise en charge des frais de l'État. Je veux dire des charges publiques, des dépenses publiques. Parce que l'impôt sert comme asset principal pour remplir les caisses de l'État et notamment les finances publiques. Pour recueillir cet impôt, on va prendre de l'argent à ceux qui gagnent plus et en donner à ceux qui gagnent moins. Directement et indirectement. Directement par la prise en charge des charges communes, on paye les forces de l'ordre, on paye les magistrats, on paye les enseignants avec cet impôt-là. Mais qui a participé à quel niveau? Chacun participe en fonction de ce qu'il gagne et en fonction aussi de ses charges. Autre part aussi, par rapport à cette fraternité, de l'argent récupéré de tout le monde en fonction de ce qu'il gagne, on va en redistribuer aux gens pour les aider à avoir au moins un minimum vital. Ce qui explique les minima sociaux. Et ces minima sociaux sont payés par d'autres personnes. Par contre, comme on a dit, pour être naturalisé, il ne faut pas être abonné minima sociaux. Il faut montrer qu'on fait des efforts d'intégration à ce niveau. La fraternité, c'est pour ne pas laisser les plus démunis en marge de la société, mais cette fraternité ne doit pas être pervertie en un moyen de facilité pour vivre de l'aide et quelque part vivre, entre guillemets, pour certains, de la mendicité. Ceux qui parlent ainsi, c'est ceux qui sont de l'autre côté de la droite, de l'extrême droite, qui pensent que les minima sociaux, c'est une forme de mendicité qu'il faut les éliminer. Le principe de fraternité ne doit pas les justifier. Et il y a une évolution de ces principes, comme on l'a souligné la dernière fois. Ces trois principes fondamentaux, il y a un nouveau principe qui part de l'égalité de traitement, qui part de la distinction entre les affaires publiques et les affaires religieuses depuis 1905, avec la loi de 1905 sur la laïcité. Et donc, cette laïcité se forge maintenant depuis 1905 avec une jurisprudence qui va de plus en plus dans ce sens-là. Au départ, c'était distinguer l'Église et l'État, les affaires de l'État et les affaires de l'Église, parce qu'en France, l'Église avait une mainmise, comme dans beaucoup de pays jusqu'à présent, par exemple des pays africains, des pays d'Amérique latine, l'Église joue beaucoup et donne son mot sur le fonctionnement de l'État. Et donc, à ce niveau-là, la pratique religieuse, c'est un droit personnel qui doit rester dans la sphère privée pour ne pas empiéter sur celle des autres. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
Comme exactement. Effectivement. Ils sont nombreux à nous appeler au 0155 07 58 00. Ce sera dans la deuxième partie. Mais d'abord, vous écoutez amplement les explications d'Aliutal. Naturalisation, comment réussir l'entretien d'assimilation. Je rappelle qu'il faut rester véritablement sur le sujet. Alors, pour réussir son entretien d'assimilation, qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'histoire de la France, Aliutal? En cinq minutes.
Mais par contre...
Avant la pause.
Parce qu'il y a un élément avant la pause qu'il faut quand même retenir, qui va revenir sur l'entretien. C'est la place de la France dans le monde, comme je l'ai annoncé. Il faudra insister sur cette place de la France dans le monde. On va vous poser cette question, ça va revenir. Et sur le rayonnement même intellectuel de la France. Et parfois même, si vous êtes intellectuel, on pourra vous poser la question à savoir qu'est-ce que vous pouvez amener, vous, en tant que futur citoyen français, pour le rayonnement international de la France. Donc, il faut comprendre que la France a joué un rôle et joue un rôle toujours dans le fonctionnement de ce cosmos qui est l'humanité, entre guillemets, mais de manière politique, je ne parle pas de manière humaine. Par exemple, en Europe, on peut retenir que la France fait partie des pays qui sont fondateurs de la communauté économique européenne en 1957. C'est cette communauté qui a donné lieu à l'Union européenne. Au départ, on appelait la CEE. Avant, il y avait même d'autres formes d'organisation qui ont donné naissance à cette union embryonnaire qui a été légiférée avec le traité de l'Union européenne en 1992. Depuis cette date, les citoyens français sont des citoyens européens en tant que tels. On est à la fois régi par un droit national et par un droit communautaire. C'est important de le dire et de le souligner parce que le fait d'être un citoyen français et un citoyen européen, ça veut dire qu'on est régi par deux normes, par deux souverainetés. La France a mis de côté une partie de sa souveraineté et l'a léguée à l'institution supranationale qu'est l'Europe. À partir de ce moment, il y a des lois de droit européen et des lois de droit interne. Quel est l'intérêt? Si moi je suis vexé par rapport à un traitement de l'administration, au niveau interne. Je donne un exemple, quelqu'un, un étranger à qui on n'a pas permis de faire venir sa famille. Mmh. Ou bien un Gabonais naturalisé qui ne peut pas faire venir les membres de sa famille dans le cadre de la réunification familiale. À ce titre-là, comme il existe une disposition de droit européen qu'on appelle l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à une vie privée familiale normale, cette disposition dépasse le droit interne français. Ça veut dire qu'on peut attaquer l'autorité française devant les institutions européennes. Mmh. Parce qu'on a ce qu'on appelle l'invocabilité directe des dispositions de droit communautaire par les ressortissants des États nationaux. Avant, ce n'était pas possible. Il y avait un camailleur. Je me rappelle quand je donnais des cours sur cette question à l'université de Saint-Louis, on traitait cet élément-là. Je ne pensais pas que ça allait faire une jurisprudence en ce moment par rapport aux droits des étrangers. C'est par rapport aux Européens entre eux, avec un arrêt qu'on appelait Van Gen Den Loos, qu'on refusait à M. Phil d'invoquer le droit européen. On lui dit non, ce droit c'est pour les États. C'est les États qui peuvent l'invoquer. Maintenant, ouais. C'est définitif.
Ouais.
Chaque citoyen français peut l'invoquer directement. L'invocabilité directe et l'applicabilité directe des dispositions communautaires est quelque chose d'acquis. Et la France a beaucoup joué à ce niveau en étant un acteur principal de la création de l'Union européenne. Et donc, on peut y travailler. Il y a la liberté de circulation. Un Français peut aller travailler en Italie.
Ouais.
Si vous êtes Gabonais, vous êtes naturalisé français, vous avez la possibilité d'aller travailler et vivre en Italie.
En Italie.
En respectant juste les formalités. On ne peut pas vous poser des questions et des conditions comme un étranger, au sens strict du terme. Il y a beaucoup d'étrangers ici qui vivent en France, qui sont chauffeurs de VTC, mais qui n'ont qu'une nationalité portugaise.
Ouais.
C'est un raccourci. C'est disant qu'il me paraît plus difficile d'avoir un boulot au Portugal, mais il m'est plus facile d'avoir la nationalité portugaise, je vais passer par le Portugal. Une fois que j'ai la nationalité, je vais en France, je travaille en tant que chauffeur VTC ou occuper n'importe quel boulot. Ça, c'est une possibilité légale, on ne peut pas vous la refuser. Effectivement, retenez que la France est la cinquième puissance aussi économique au monde, c'est important. Qu'elle joue un rôle considérable dans la communauté
internationale. Cinquième puissance économique.
Oui, cinquième puissance économique au monde. Et qu'elle est aussi membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Qu'elle est aussi membre fondateur de l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique, qui a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 1989 notamment. Elle participe beaucoup aussi à des opérations militaires, sous le couvert de l'ONU, avec des résolutions, parfois même en étant l'actrice principale de ces résolutions, parce qu'elle y trouve son intérêt, parce qu'elle veut intervenir dans ce qu'on appelle son précaré, notamment dans des zones de tension en Afrique. Et là, je pense qu'on connaît la force Barkhane, on a vu ce qui s'est passé récemment, c'est des résolutions-là qui le permettent. Donc la France, effectivement, joue beaucoup dans ce système-là. Elle joue beaucoup aussi en tant que pays dans la communauté linguistique française qu'on appelle la francophonie,
ouais.
Qui représente plus de 70 États et qui partage en commun une communauté linguistique et qui, au-delà de la langue, maintenant, renvoie à une communauté de solidarité, une communauté culturelle. Ce sont des informations qu'il faut bien retenir à ce niveau.
Voilà, la suite dans quelques instants. Donc, naturalisation, comment réussir l'entretien d'assimilation. C'est la troisième partie, hein, ça fait trois mercredis. On en parle 9h25, nous avons Guy, Younous, Georges et Kanga. Juste après la pub, ne bougez surtout pas.
Le plus de la grande matinale sur Africa numéro 1. Le droit et nous, dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.
Naturalisation, comment réussir l'entretien d'assimilation, c'est notre sujet du jour. Je suis en compagnie d'Aliou Tal comme tous les mercredis. On va commencer par la question de Georges. Naturalisation pour sa fille hein, qui est actuellement au Cameroun, hein, c'est bien cela, Georges. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Aliot.
Bonjour, Georges.
Je vous envoie un SMS la dernière fois.
D'accord.
Au sujet. Mais oui. Bon, j'ai constaté que vous auriez peut-être 1000 SMS de ce genre. Alors, en fait, moi, je suis français depuis 2010, naturalisé. Et bon, à l'époque, j'avais joint les papiers de ma fille dans le dossier. Mais on m'a répondu, quand ils m'ont remis la naturalisation, ils m'ont dit que ma fille, il faut qu'elle soit dans le territoire. Bon. Donc, et comme moi, je trouvais pas encore, c'était pas encore pressant pour moi, elle était au Cameroun avec sa maman. Et récemment, l'année dernière, sa maman est décédée. Donc, j'ai failli...
Nos condoléances, bon. Monsieur.
Ouais, je vous en prie. Donc, je me suis dit, je la récupère avec moi. Et ici, moi, je suis déjà français, je travaille, je suis cadre dans une boîte ici. Donc, je me suis dit, je la récupère. J'ai pas trouvé de solution. La seule solution qu'on m'avait donnée, je suis allé à l'OFI, on m'a dit non, c'est pas le regroupement familial parce que moi, je suis déjà français. On m'a dit non, il faut que j'aille faire un visa comme si elle venait, un visa long séjour. Je suis allé au Cameroun en février, j'ai fait un visa long séjour en février 2018. Ils m'ont donné un récépissé de 4 mois, un délai de 4 mois. 4 mois dans, en juin, mon papa est reparti là-bas. On a prolongé le délai jusqu'en octobre. Donc, 4 mois, oui, jusqu'en octobre. En octobre, il est reparti là-bas. Et chaque fois, j'envoie les messages par SMS, ils me répondent que le dossier est en cours. Donc là, en octobre, depuis octobre, il est reparti en octobre pour qu'on lui donne au moins son acte de naissance parce que, comme elle était en terminale, il fallait qu'elle fasse le baccalauréat. Donc, on lui a dit, monsieur, attendez encore. Donc, depuis là, on n'a pas de nouvelles, rien. Je ne sais même pas, j'envoie les messages, personne ne répond. Moi, je suis vraiment, je ne sais pas. Donc, la dernière fois, j'ai écouté, comme j'écoute généralement vos émissions, donc je me suis dit, bon, le jour où j'aurai l'occasion de soit de vous rencontrer, soit de vous en parler comme ça et là. Et là, je suis vraiment satisfait de vous avoir.
Merci. Déjà, merci beaucoup pour la question et pour l'intérêt et pour les SMS. Le seul problème que j'en profite pour régler ce problème par rapport à d'autres personnes, quand c'est des questions de fond, mieux vaut effectivement appeler à la radio ou bien les SMS, je le traite. Mais si c'est une question personnelle qui n'intéresse pas tout le monde, on fait des consultations associatives. Vous pouvez me demander de ça dans les SMS. Mais il y a des gens qui m'écrivent des SMS longs pour espérant que je peux le traiter. Je ne peux pas avoir les moyens de traiter comme vous l'aviez dit. Vous avez imaginé que je peux avoir beaucoup de SMS dans ce genre et je n'aurai ni le temps ni les moyens techniques de faire ça bénévolement. J'aime bien être Père Noël, mois de décembre, mais pas tout le temps, vous comprenez. Voilà. Néanmoins, ça m'intéresse cette question. Je l'ai vu, toutes ces questions, je les traite et ce qui fait l'objet donc, de nos ateliers ici en direct pour que tout le monde en bénéficie. Quand c'est vraiment générique, c'est comme ça, c'est intéressant. Quand c'est personnel, n'hésitez pas aussi de demander par rapport aux SMS que vous voulez une consultation associative. D'accord ?
D'accord.
Pour des questions personnelles. Okay. Maintenant, vous nous avez aujourd'hui, on va vous donner des éléments de réponse. Donc, vous avez dit que vous êtes, vous, français ?
Oui, depuis 2010.
Très bien. Et la maman de la française est décédée, malheureusement. Cet enfant est dans l'isolement familial, dans son pays.
Oui.
C'est un élément fondamental. Vous ne faites pas un regroupement familial. Vous faites ce qu'on appelle la réunification familiale. S'il y a un problème de départ...
Qu'est-ce que c'est la réunification familiale, Lutal ?
C'est juste un terme technique pour dire que c'est de plein droit. Le regroupement familial, c'est comme je l'ai dit tantôt, sur la base d'une disposition qui dit qu'on a droit à une vie privée familiale normale si on remplit des conditions, des conditions matérielles de revenus, des conditions matérielles de logement. Quand c'est la réunification familiale, ça veut dire que c'est de droit. C'est comme un Français lambda qui veut faire venir sa famille. C'est tout simplement. Même s'il gagne 2 euros, même si vous gagnez 2 euros, vous avez le droit de faire venir cette fille. Or, si vous étiez étranger avec un titre de résident, vous devriez prouver que vous avez les moyens d'entretenir, de prendre en charge cet enfant-là et qu'il y a des conditions aussi de délai. Même si la préfecture vous donne l'autorisation de faire venir votre enfant, il y a des conditions de délai, vous pouvez être fort clos. L'administration consulaire là-bas peut dire non. Au niveau de la PAF, la police aux frontières, une fois que votre enfant arrive, ils ont aussi la possibilité de dire non. Dans le cas de figure qui vous concerne, ils ne peuvent pas dire non. Sauf si, après vérification, peut-être c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils se rendent compte qu'il y a un problème sur la filiation de votre fille. Ça veut dire qu'ils savent, comme je l'ai dit la dernière fois lors de notre réunion, il y a des gens quand même qui reconnaissent des enfants qui ne sont pas leurs enfants.
Exactement.
Il y a des tricheries qui existent qui font que finalement dans le lot, il y a des suspicions globales sur tout le monde, même les gens qui sont vraiment le père de leurs enfants, parfois il y a des suspicions globales. Ils font leur travail, ce qui est normal. Mais dans ce travail, ils ne doivent pas outrepasser les droits et les devoirs de l'étranger et les droits et les devoirs aussi de l'administration. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas aller au-delà du strict contrôle de l'authenticité de l'acte de naissance qui justifie que cet enfant est votre enfant. Et ce contrôle, normalement, doit se faire à partir de là-bas, suivant les normes de droit local, pas les normes de la France. C'est important de le dire, ce que je suis en train de vous dire à travers votre cas.
Oui.
Systématiquement, on se rend compte de plus en plus, quand il y a des conditions de rejet, quand il y a des rejets, dans des circonstances où c'est de plein droit comme vous, les autorités consulaires vont s'agripper sur un élément. Ça veut dire que la filiation dont vous prétendez, elle n'est pas établie, mais elle est fausse, elle est frauduleuse ou bien elle est apocryphe. Et pour le démontrer, s'il n'y a pas de petites bêtes sur lesquels l'administration consulaire peut s'agripper, ils vont juste dire que l'acte que vous avez fourni n'a pas été élaboré en fonction des règles de votre pays d'origine. Cela veut dire que si vous êtes ivoirien, ils vont dire que d'après le droit ivoirien, vous n'avez pas respecté les normes de droit ivoirien. Et là, c'est quand même fallacieux.
Ouais.
Alors que l'autorité ivoirienne va certifier que l'acte est authentique.
Ouais.
Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'il y a une contrainte qui relève du Code civil, en l'occurrence son article 47, qui dit en substance que les actes d'état civil qui ont été élaborés dans les formes usitées au pays d'origine, qui respectent le droit local, ont une force probante en France et partout où la France est représentée, notamment en ce qui vous concerne au niveau des autorités consulaires. Si vous prouvez que l'acte d'état civil de votre enfant est conforme aux règles de droit local de votre pays d'origine, s'il n'y a pas de tricherie, ils vont chercher tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas dire non. Par contre, si le temps passe, là, on vous cause en tort, vous avez le droit de faire venir votre enfant. L'enfant peut devenir majeur, il peut y avoir des contraintes par rapport à sa scolarité. Si ouais. c'est votre cas de figure au jour d'aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est de faire une injonction à cette autorité administrative là-bas. Il y a un cas de figure où même c'était passé, l'enfant était devenu majeur, mais ce n'était pas la faute de la personne qui était un Malien qui m'avait écouté sur Africa numéro 1 en 2011 d'ailleurs. Depuis 2011, on traitait la question jusqu'en 2015. L'enfant est devenu largement majeur. Ce que j'ai fait cette injonction aux autorités consulaires de Bamako et j'ai fait une copie et une mise en demeure à l'autorité de tutelle qui est le ministère des Affaires étrangères. Ils ont réagi assez rapidement. Ils ont demandé le dossier de l'enfant au consulat de Bamako qui, perplexe et déboussolé, a dit que non, il n'y a pas de dossier ici. Mais ce monsieur était vraiment bien rangé, bien structuré. On avait tous les documents qu'on a donnés au ministère des Affaires étrangères et la question a été réglée sur la base d'un dysfonctionnement administratif. Donc, en ce qui vous concerne, je vous demande de faire cumulativement ces deux démarches-là, soit à titre personnel ou bien effectivement à travers moi ou d'autres personnes, on peut vous recevoir. Si ça bloquait encore, vous pouvez venir me voir, d'accord? Mais néanmoins, faites les deux démarches cumulativement. Il ne faut pas que vous pensiez que vous êtes étranger. Vous n'êtes plus étranger. Quand on est naturalisé, on n'est plus étranger. Et parfois, eux, ils pensent ainsi. On est naturalisé, mais on est toujours étranger.
Où est-ce qu'on fait ces procédures là?
Comment?
Où est-ce que j'ai fait la procédure de vous avez dit pas le regroupement familial, mais
réunification. Voilà. Oui. Voilà, c'est cette procédure-là qui vous concerne à travers donc le visa long séjour qu'on ne peut pas vous refuser.
Merci beaucoup, Georges. Nous avons beaucoup d'appels, Georges. Désolé, hein, parce que vous pouvez pas immobiliser l'antenne. Vous avez eu un peu plus de 3 minutes. On va à présent donner la parole à Guy. Hein. Son fils vient d'avoir 3 ans. Il est né en France. Son épouse doit attendre hein, qu'il ait 13 ans pour faire une demande de nationalité. C'est bien cela, Guy?
Oui, bonjour, Phil.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour Phil, bonjour Guy. Désolé, je vous appelle Phil.
C'est pareil.
Oui. En fait, petite correction, mon fils vient d'avoir 13 ans. Voilà. Et j'ai la famille de mon épouse qui sont tous français en fait. Donc voilà, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui serait le plus efficace pour nous pour demander la nationalité. Parce que j'ai vu qu'il y avait une loi qui disait qu'à partir de 13 ans, les parents étrangers d'un enfant qui est en France pouvaient demander par courrier au greffier ou je ne sais plus qui la nationalité en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je veux savoir pour nous ce qui serait le plus efficace.
En fait, je vous entends de loin, il y a une partie qui m'a échappé. Ce que j'ai compris, c'est que votre enfant a 3 ans ou va avoir 3 ans.
13 ans, il a eu 13 ans. 13 ans,
13 ans, 13 ans, 13 ans plutôt. Il a eu 13 ans. Et il y a un de ses parents qui est français ou pas? Ou bien tous les deux parents sont étrangers?
Non, les deux sont étrangers. Par contre, les parents de mon épouse sont tous français.
Et en fait, on ne parle pas des parents de votre épouse, mais des parents de l'enfant considéré. Est-ce qu'il y en a un qui est en titre de séjour?
Non.
Aucun des parents?
On est deux en titre de séjour. Mais d'accord. Par contre, nous sommes de nationalité étrangère.
Très bien. Donc, vous avez le titre de séjour. Et quelle est votre question par rapport à ça?
En fait, pour demander la nationalité, est-ce que je...
La nationalité pour qui? Pour vous ou bien pour l'enfant?
Pour nous et pour l'enfant, en fait.
D'accord. Très bien. En fait, il y a deux réponses par rapport à l'enfant et par rapport à vous. Pour l'enfant, effectivement, l'enfant à partir de 13 ans, vous pouvez demander la nationalité française pour votre enfant. Il faut son consentement et vous. À partir de 16 ans, l'enfant peut le faire par lui-même de son propre chef. À partir de 13 ans, vous pouvez réclamer la nationalité de l'enfant.
Ouais.
Et quel est l'intérêt, une fois que l'enfant a sa nationalité, pour d'autres parents, même si c'est ses parents, par exemple, il y a un des parents qui n'avait pas de titre de séjour, du fait que l'enfant a la nationalité française, l'a acquise plutôt, l'autre parent qui n'avait pas de titre de séjour peut l'avoir parce qu'il devient dorénavant parent d'un enfant français. Il doit juste prouver qu'il participe à l'entretien de l'enfant. Automatiquement, on ne peut pas lui refuser un titre de séjour. Et même s'il y avait des péripéties, il devient inexpulsable en France. Mais ce n'est pas ce qui vous intéresse parce qu'à priori, vous avez tous les deux des titres de séjour ici. D'accord?
Oui.
Voilà. L'autre question est de savoir pour vous, est-ce que du fait que l'enfant acquiert la nationalité française, vous, parents, vous pouvez aussi demander la nationalité française. C'est ça la question?
Oui, c'est ça aussi.
Aucunement. La réponse est non. Aucunement. Vous ne pouvez pas, du fait de l'acquisition de la nationalité française de votre enfant, vous prétendre à une nationalité française. Vous devez passer par une démarche normale de naturalisation. Vous devez faire la demande, chacun de son côté, ou bien cumulativement, si vous êtes ensemble, vous pouvez faire la demande. Mais vous ne pouvez pas déduire un droit à la nationalité du fait que votre enfant l'a acquise. Exact. Par contre, le fait que l'enfant soit devenu français, c'est un élément fondamental que vous pouvez insérer dans votre demande, dans votre lettre de motivation pour montrer votre ancrage citoyen en France parce que vous êtes parent d'enfants français. Ça va appuyer votre dossier, mais ce n'est pas une condition pour vous donner la nationalité.
D'accord.
Voilà. Merci beaucoup, Guy, pour votre appel. On va enchaîner avec Kanga. Je suis marié depuis 93, mais je n'ai jamais habité avec mon épouse car nous ne sommes pas tombés d'accord. Puis-je bénéficier de la nationalité française ? C'est bien cela, Kanga ?
Oui, c'est ça, oui.
Ouais.
Oui, monsieur Kanga, donc dites-nous les détails par rapport à ça. Vous êtes marié depuis 93 ?
Non, 2013, elle a mal compris, en fait. 2013.
2013, oui, ça me paraît un peu...
Voilà.
Depuis 2013 ?
Oui.
Depuis 2013, vous êtes marié et vous vivez où ?
Non, bon, auparavant, on s'est marié dans la ville d'Essence. Donc, voilà, moi, j'ai travaillé à Paris. Donc, je venais, elle vivait à Essence. Moi, je venais de temps en temps. Donc, quand on s'est marié.
Vous venez de temps en temps, ça veut dire que vous étiez à l'étranger?
Non, moi, j'habite à Paris.
Ah, donc, c'est juste la ville qui est différente, parisienne. Mais tous les deux, vous êtes en France, d'accord?
Oui, on est en France, oui, tous
d'accord.
Les deux, oui.
Très bien. Et donc, oui.
Voilà.
Oui.
Mm-hmm. Moi, j'ai travaillé dans les 77. Donc, elle est. Après le mariage, mon boulot ne me permet pas de venir habiter à Sens. Donc, j'ai demandé qu'on déménage sur Paris. Elle n'a pas voulu. Mm-hmm. Donc, voilà, pour une histoire comme ça, on s'est séparés. Voilà, on ne s'est plus revu après 2 ans, 3 ans.
Vous êtes séparés de fait, mais vous n'avez pas divorcé.
Non, on n'a pas divorcé.
Très bien.
Mm-hmm. On n'a pas divorcé. Et après, le souci, c'est qu'elle a refait sa vie. Et maintenant, elle a 2 enfants. Mm-hmm. Et moi, jusqu'à présent, on n'a pas divorcé. Donc, moi, je demande... Et qu'est-ce que je peux bénéficier au fait le fait qu'on soit toujours mariés, mais on n'a rien déclaré ensemble. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas quoi faire.
En fait, vous avez besoin de quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à quelle requête ? La nationalité ou un titre de séjour ? Quelle est votre attente ?
Non. Moi, j'ai le titre de séjour de 10 ans.
D'accord, mais vous avez besoin de quoi ?
Pour la nationalité, au fait. Pour demander la nationalité.
Elle a la nationalité française ?
Oui, elle est française, oui.
D'accord. Ah ouais, je comprends votre question. Et votre question est de savoir, est-ce que du fait qu'elle est française et qu'elle est toujours votre conjoint, vous pouvez, par la déclaration,
voilà,
c'est la forme d'acquisition déclarative. On parlait tout à l'heure de l'acquisition par décision de l'autorité publique. Là, c'est une naturalisation du fait du mariage. Est-ce que, en d'autres termes, vous pouvez bénéficier de la nationalité française du fait de votre union, tant bien que vous n'avez pas de vie commune? C'est ça votre question?
Oui, on n'a rien déclaré ensemble. Voilà, c'est ça ma question, oui.
Très bien. Non, il fallait avoir une vie commune. Effective, ça veut dire sur le même toit, mais en plus, mieux encore, affective, ça veut dire que ce n'est pas un mariage gris, vous comprenez ?
Ouais.
Donc, vous ne remplissez ni l'une des conditions, ni l'autre condition. Même si vous dormiez sur le même toit, à Paris, vous habitez tous les deux à Sarcelles depuis Matusalem, et qu'ils se rendent compte que le mariage n'est pas consommé, que c'est juste comme ça une cohabitation. De fait, qu'elle menait sa vie avec une autre personne. Le fait qu'elle ait 2 enfants avec une autre personne, ça veut dire que la vie commune affective n'existe pas. Le mariage en tant que tel, il est absous. Le mariage est... dans les faits, dissous, si bien que juridiquement vous êtes encore lié par le lien conjugal, dans les faits, vous n'êtes pas lié par le mariage. Et de ce fait, vous ne pouvez aucunement bénéficier de cette disposition qui permet à un conjoint de bénéficier de la nationalité française à partir du moment où il y a plus de 3 ans de vie commune avec son conjoint de nationalité française. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, quand vous n'êtes pas divorcé, vous êtes séparé. De fait, si vous aviez recommencé à vivre encore une fois, c'est possible, hein, les gens peuvent partir et revenir vivre 3 ans, il faudra les prouver qu'il y a une vie effective et qu'il y a une union matrimoniale avérée, à partir de ce moment, vous pourriez le faire. Mais je pense que ça, c'est trop tard. À partir du moment où vous me dites qu'elle a refait sa vie, qu'il y a 2 enfants, vous ne pouvez pas utiliser ce schéma-là pour devenir français. Plutôt, vous avez un titre de 10 ans. Oui.
Actuellement, là, on cherche à divorcer, en fait, parce que ça n'avance pas.
Oui, et je pense même que pour des niveaux, pour des questions de droit civil, il faut divorcer. Quand le mariage n'est pas consommé pendant tout ce temps-là, il peut y avoir des complications assez sévères par rapport à vos enfants, par rapport au droit successoral. Je ne le souhaite pas, mais si ça arrivait, il peut y avoir des grandes complications, même par rapport à votre responsabilité au niveau civil. La responsabilité du couple au niveau des dépenses, on peut vous affecter une partie des dettes que la femme ou bien vous aurez dépensées. Supposant que c'est dans l'intérêt de la famille parce que vous n'êtes pas divorcé, alors qu'il a peut-être donné 2000 euros pour son copain qui aille en vacances, vous comprenez ? Ou bien son homme. Donc il faut faire attention. Ça peut créer des situations très ubiesques et qui est très regrettable. Donc je vous conseille vivement, pour le cas de figure, si le mariage n'existe plus, de dissoudre le mariage par la voie du divorce. D'accord ?
D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Kanga, ce sera juste une question. Désolé, parce que nous avons beaucoup d'appels. On va prendre Younous, hein, en déposant le dossier de naturalisation par le biais des enfants. Entre-temps, je me suis marié avec une Sénégalaise. Je n'ai toujours pas de nouvelles. C'est bien cela, Younous ?
Ah oui.
Bonjour Younous.
Oui, Younous, c'est la même chose encore. La
mais Younous, c'est la Sénégalaise qui a disparu ou bien c'est le dossier qui a disparu?
Non. Avec elle, on a divorcé, tout ça. Ils m'ont demandé tous les papiers, comment ça s'appelle. Après, mais je parle bien de mes enfants. J'avais demandé la naturalisation. C'est moi qui avais appelé la dernière fois. Comment ça s'appelle? La naturalisation. Mm-hmm. J'avais demandé comment ça s'appelle? Papier, ma compagne. J'ai dit qu'on vit ensemble, mais elle n'a pas de papier. Parce que j'ai déposé les papiers de mon enfant qu'on a eu ensemble avec ma nouvelle compagne. Mm-hmm. Ouais. Et quand j'ai déposé ça, j'ai déposé en étant parent d'enfants français.
D'accord.
Parce qu'on a entré avec la première, elle est française. Mm-hmm. Donc mes enfants sont automatiquement français.
Mm-hmm.
Donc par ces biais-là, j'avais.
Et vous avez déposé pour obtenir quoi?
La nationalité française.
D'accord. D'accord.
Ouais. Mm-hmm. Ouais.
Et donc votre question est de savoir?
Ben, ça fait un bon moment, j'attends jusqu'à présent, j'attends jusqu'à présent, j'ai pas de nouvelles.
Mais Younous, est-ce que vous savez que vous ne pouvez aucunement obtenir la nationalité française par le biais de vos enfants français? Il y a aucun texte de loi qui le permet, c'est pas ça?
Non, parce que par filiation, parce que moi, par filiation, tu peux demander par filiation.
Non, mais ça n'existe pas. Si quelqu'un vous l'a dit, vous voulez qu'Alutal a dit qu'il s'est trompé. Si une administration vous l'a dit aussi, cette possibilité n'existe pas. Il n'y a aucune possibilité légale en France qui permet à un parent français de devenir français du fait que son enfant est français. Ce qui existe, si vous êtes parent d'un français et que vous l'entretenez, vous pouvez avoir un titre de séjour en droit de résident, mais pas la nationalité française. Si vous avez déposé un dossier que ça a été enregistré, ils l'ont mal enregistré. Si vous l'avez envoyé et que vous espérez une réponse, vous n'aurez jamais de réponse positive.
Non. Moi, j'ai fait l'entretien, l'attestation de dépôt de dossier, tout ça.
Mais monsieur, si vous avez fait un entretien, vous n'avez pas déposé parce que vous êtes parent de français. C'est que vous avez déposé par la voie normale. C'est une naturalisation.
C'est ça. J'ai déposé par la voie normale.
Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas du fait de vos enfants français, ce que j'étais en train de vous dire. Vous n'avez pas déposé parce que vous êtes parent de français. C'est ce que vous aviez dit au départ. Je vous disais que ça, ce n'est pas possible. Si vous avez déposé par la voie normale, maintenant, on recadre le débat. Quelle est la question? Et je vous donne la réponse. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Allô?
Younous?
Oui, allô, oui, je vous entends, oui.
Oui, j'ai dit que maintenant, je comprends que ce n'est pas du tout ce qu'on avait pensé là, au départ, ce que vous avez pensé que vous pourriez avoir une possibilité de naturalisation par vos enfants français, ce n'est pas possible. Vous l'aurez probablement par vous-même, parce que vous avez déposé par la voie normale. Quelle est votre inquiétude par rapport à votre démarche?
Parce qu'après, ils m'ont demandé, parce que je vis avec une femme avec qui n'a pas de papier. Je dis que moi, on s'est rencontrés comme ça. À Paris, moi, je ne l'ai pas amené. On s'est rencontrés et on a eu un enfant. Et donc, je ne pouvais pas laisser partir la femme comme ça. J'ai écrit ça. Après, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Donc, il faut compléter ton dossier.
D'accord. Ouais. Impeccable. Là, il n'y aura pas de problème. Avant, effectivement, c'était un motif d'ajournement ou de rejet de la demande de naturalisation parce qu'on pensait que c'était une aide au séjour irrégulier. Maintenant, même le temps passé en séjour irrégulier ne peut pas vous être reproché par vous. Pour vous-même déjà, on ne peut plus vous reprocher cela. Ça a été très clair, il y a des règles qui ont été donc dictées aux autorités préfectorales. A fortiori, on ne peut plus vous reprocher d'avoir épousé quelqu'un ici. Vous n'avez pas fait venir quelqu'un de là-bas par des voies qui sont contraires aux règles sur la migration. Si vous l'aviez fait, on vous aurait reproché d'avoir violé les normes sur la politique migratoire. Ce n'est pas votre cas de figure. Vous avez le droit de vous marier à une personne sans tenir compte de sa situation, de son origine ou de sa situation administrative. On ne pourra pas vous reprocher cela pour refuser votre dossier. On ne pourra plus. Avant, ça se faisait, mais ce n'est plus un motif.
D'accord. Donc, c'était ça. Parce que ils m'ont demandé tous les documents. J'ai tout donné.
Merci.
Ils m'ont même demandé les papiers de mes enfants. Certificat de scolarité ici à Paris.
Très bien.
J'ai tout donné.
Donc là, il faut juste attendre. Parce que vous savez que ça peut prendre 18 mois. Donc, vous pouvez attendre. Au-delà de ça, maintenant, vous devez écrire pour leur demander ce qu'il en est.
Bah non, ça ne fait pas 18 mois.
Donc vous devez attendre. Si ça ne le fait pas, vous pouvez attendre toujours.
D'accord? Non, ça ne fait pas 18 mois.
Donc, vous êtes dans les temps. D'accord, Younous?
D'accord.
Merci. Bonne continuation.
Okay. Bonne continuation, Younous. On va enchaîner. Plus que 4 minutes. On va prendre Monsieur Diaby. Il a la nationalité espagnole. Hein. Ses enfants sont en Afrique. Avant d'engager les démarches, est-il possible de les faire venir avec cette nationalité? C'est bien la question de Younous.
Bonjour, Monsieur
Diaby.
Oui,
bonjour, Monsieur Diaby.
Bonjour.
Oui, allez-y rapidement, Monsieur Diaby.
En fait, comme j'ai de la nationalité espagnole, je voulais regrouper mes enfants ici. Est-ce que c'est possible avant de faire les démarches, avant de déposer les papiers?
Oui, vous pouvez faire venir vos enfants parce que vous avez la nationalité espagnole. Comme je disais tantôt, on l'avait oui. dit, à travers donc, le principe fondamental donc, qui veut que vous avez la liberté de circulation en tant que ressortissant de l'Union européenne dans l'espace oui. d'établissement. Vous avez le droit d'établissement. Ce droit d'établissement, c'est pour vous et pour votre famille. Quand vos enfants viendront ici, ces enfants auront le droit, comme vous, d'avoir un titre de séjour ici, vie privée et familiale. Et donc, si ces enfants sont mineurs, je vous conseille largement, effectivement, de les faire venir avant d'entamer la procédure de naturalisation. Sinon, effectivement, ils ne pourront pas bénéficier de l'effet collectif. Il vous faudra, s'ils viennent ici légalement après, faire une nouvelle démarche pour demander à ce que le décret qui va acter votre naturalisation soit révisé. C'est une autre démarche qui, parfois, est aléatoire. Donc, pour éviter cet aléa, je vous conseille vivement, comme la loi vous le permet, de faire venir vos enfants, tout naturellement, de passer à la préfecture pour leur faire attribuer un titre de séjour vie privée familiale. Et oui. une fois que c'est fait, vous entamez votre démarche. Et comme les enfants seront là, et les enfants pourront avoir la nationalité française, si vous voulez qu'ils retournent au pays, pour en retourner, ils peuvent partir en Espagne ou bien dans votre pays d'origine. Voilà la démarche qui est idéale pour vous.
Merci beaucoup, merci. Monsieur Diaby. On va donner la parole à Charles. Charles doit passer l'entretien hein, de naturalisation. Comment cela va se passer? On ne sait pas. Il doit chanter la Marseillaise. Peut-être qu'il pourrait nous la chanter maintenant, Charles. Charles.
Oui, oui bonjour.
Charles.
Oui.
Bonjour, Charles.
Bonjour. Mmh. Oui, justement, c'était ma question parce que aussi, j'ai une inquiétude parce que mon dossier a déjà été ajourné une fois. Et c'est pour ça que je posais cette question.
Alors, vous avez la Marseillaise en fond déjà. Hein. Bah, vous pouvez tricher, vous allez regarder les paroles, Charles. Nous vous écoutons.
Alors, Charles, vous avez la bénédiction parce que la Marseillaise est chantée pour vous. Alors, dites-nous, quelle est votre inquiétude?
Mon inquiétude, c'est d'abord par rapport à la question de la Marseillaise. Si c'est une question, si c'est obligatoire de savoir chanter la Marseillaise, et si c'est oui, je vais m'y mettre à apprendre.
Ça se pourrait que moi-même, je ne sache pas chanter la Marseillaise. Hein. Ouais. Je peux connaître les textes, mais chanter ça, peut-être pas.
On écoute la Marseillaise, surtout lors des matchs de foot. Hein.
Voilà. Par contre, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, on l'a bien souligné tout à l'heure, effectivement, vous ne devez pas ignorer que ça existe. Et que vous gagnerez aussi à savoir que ça fait partie des symboles de la France et à connaître le texte. A posteriori, ça veut dire quand vous serez naturalisé, on pourra vous demander davantage parce que vous allez passer un contrat citoyen. Avant qu'on vous remette votre citoyenneté, votre décret, effectivement, il faudra connaître la Marseillaise dans le cadre de... Et l'accepter. Non seulement il y a connaître la Marseillaise, que c'est un cri d'honneur aux combattants de la liberté. Retenez ça plutôt. C'est quoi la Marseillaise?
Cri d'honneur aux combattants de la liberté.
Et parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un cri de guerre, parce que vous savez, dans la Marseillaise, il y a des paroles qui dérangent certaines personnes.
Ouais.
Parce qu'ils disent qu'on parle de sang, alors que tout ça. Mais vous, retenez ainsi, c'est la formule la plus diplomatique et la plus avenante, que c'est un cri d'honneur aux combattants de la liberté. Regardez ça et gardez les textes. On ne va pas vous demander a priori de savoir réciter cela, mais de savoir ce que cela représente. D'accord? Ça fait partie des symboles de la France. D'accord? Et que, effectivement, comme je vous l'ai dit, avec le drapeau national tricolore, avec la Marianne qui est la représentation d'une paysanne qui incarne la liberté de la France.
Alors voilà, pour le reste. Merci beaucoup. Je pense qu'on va certainement revenir la semaine prochaine.
Je pense obligatoirement pour clôturer.
Pour clôturer donc, la quatrième partie sur la naturalisation, comment réussir l'entretien d'assimilation. Si vous n'avez pas pu passer à l'antenne, rassurez-vous, revenez. Mercredi prochain et pour faire plaisir à notre ami un peu de Marseillaise. Merci à Lutal.
Merci Phil.